Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue sur Accent. Et on commence par le portrait du juriste le plus connu en Turquie en matière de lutte contre le nucléaire. Arif Ali Jungu a reçu récemment le prestigieux Nuclear Free Future Award, ou prix de l'avenir sans nucléaire, dans la catégorie résistance. Il lui sera remis à Johannesburg ce 17 novembre, dans deux jours. C'est la première fois qu'un Turc se voit décerner ce prix créé en 1998 à Nanlauer.
Depuis plus d'un demi-siècle, la Turquie rêve d'entrer au club des puissances nucléaires, elle qui dépend tellement de pays mieux dotés pour produire notamment son électricité. Et depuis plus d'un demi-siècle, des militants se mobilisent, peu nombreux mais très actifs, pour bloquer ces projets. Dans la génération actuelle d'antinucléaires turcs, Arif Ali Jungu est un nom qui revient sans cesse. Avocat depuis une vingtaine d'années, visage souriant derrière des lunettes carrées, visage incontournable dans la presse et dans les procès. Son fait d'armes le plus célèbre remonte à 2012, quand il a révélé et lutté contre le stockage illégal de déchets nucléaires à Gaziemir, dans la province égéenne d'Izmir, où il est installé. On lui doit une campagne avec plusieurs scientifiques turcs pour informer les habitants sur les dangers liés à la radioactivité pour leur santé et leur cadre de vie. Comme Arif Jungu le notait récemment, ce dépôt de déchets existerait toujours et personne ne sait comment il est arrivé là. La lutte continue, martèle donc cet homme engagé, comme il le fait ailleurs pour les nombreux procès dont il est l'avocat et le porte-parole. L'autre cause de sa vie est un combat encore plus dur, mais dont l'issue pourrait changer l'avenir de son pays. Arif Ali Jungu tente d'empêcher la construction de la première centrale nucléaire turque. Les Russes de Rosatom s'en chargent dans la province de Mersin, sur les rives de la Méditerranée, là où Arif Jungu est né et où vit toujours sa famille. Ces derniers mois, le chantier était ralenti, mais il devrait repartir maintenant que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont réconciliés. Les antinucléaires sont d'autant plus mobilisés que cette centrale n'est qu'un début. Un contrat a été signé pour une deuxième centrale sur les rives de la mer Noire, construite par une société franco-japonaise, et la Turquie a annoncé vouloir bâtir une troisième centrale. Arif Jungu pense que c'est notamment la relance du projet de centrale à Mersin qui lui a valu cette année le prix de l'avenir sans nucléaire, un prix qu'il dit dédié, je cite, à tous ceux qui, depuis les années 1950, ont lutté en Turquie contre les centrales nucléaires, à tous les activistes qui sont tombés malades ou ont perdu la vie.
Produire de la viande bio en respectant un écosystème datant du Moyen-Âge, c'est le pari d'Enrique, un agriculteur espagnol qui, depuis 10 ans, élève un troupeau de vaches au nord de l'Estrémadour. L'éleveur a choisi une race locale, il fait paître ses bêtes de façon à respecter l'environnement. Il va même plus loin avec d'autres éleveurs agriculteurs. Il veut faire reconnaître auprès du pouvoir à Madrid et de l'Union européenne, la DSA, ce mode d'exploitation ancestrale agro-silvopastorale qui s'étend de la Castille et Léon à l'Andalousie. Diane Cambon l'a rencontré sur ses terres. Reportage.
À quelques mètres des ruines romaines de Caparra, non loin de la ville de Plasencia, s'étend sur 400 hectares le domaine d'Enrique Vega. Des terres qu'il a héritées de son père, éleveur de bovins comme lui. C'est là que ses vaches paissent paisiblement au milieu de ce que l'on appelle la DSA. Ce sont des pâtures à perte de vue en sous-bois clairsemés, des belles prairies vertes plantées de chênes lièges et chênes verts où les vaches trouvent refuge mais aussi nourriture. Elles s'alimentent d'herbes, de feuilles et surtout du bellota, des glands de chêne. Or aujourd'hui, cet écosystème est en danger, comme l'explique Enrique.
Pratiquement sur toute la surface de la DSA, il y a évidemment encore beaucoup de chênes verts. On ne manque pas d'arbres, mais il n'y a plus de nouvelles pousses et aucune possibilité que ça se produise. Car même si les arbres donnent des fruits, eh bien, dès que les glands tombent au sol, les bêtes très nombreuses les mangent immédiatement ou alors les détruisent en les piétinant. Le renouvellement est donc impossible. Et puis, il faut savoir que le sol de la DSA est pauvre en nutriments. Alors d'accord, il y a l'apport des animaux avec leurs matières organiques, mais ce sont surtout les arbres qui nourrissent la terre. Et avec leur raréfaction, eh bien, l'écosystème se fragilise beaucoup.
Autrefois, les éleveurs espagnols pratiquaient la transhumance durant 6 mois, comme le père d'Enrique, ce qui permettait au sol de se reposer et aux pousses d'arbres de grandir. Mais sous la pression du marché, les éleveurs conventionnels n'ont cessé d'augmenter leur cheptel bovin et les terres se sont appauvries. Biologiste de formation, Enrique a choisi, lui, de conserver son environnement. Ses pâtures sont parsemées de buissons où des pousses de chêne grandissent protégées par des aubépines. Et surtout, il pratique l'agroécologie.
J'ai choisi de mener une production biologique d'abord pour respecter la DSA. C'est un endroit magnifique et choisir un autre type de culture, ça aurait été un crime. Nous avons aussi choisi des vaches locales. Ce sont des races adaptées à l'écosystème de la DSA et d'Estrémadour. C'est très facile de pratiquer l'écologie dans la DSA, car c'est un environnement qui est fait pour ça.
Avec 135 vaches, Enrique ne roule pas sur l'or, mais c'est suffisant pour faire vivre les siens et 3 employés. Ses clients, environ 300 familles, font tous partie de groupes de consommateurs, une forme de vente qu'il défend vivement.
On préfère la voie artisanale car il s'agit de vendre de la viande obtenue par un élevage responsable. Avec les consommateurs, on peut parler directement de la qualité de mon produit. Je peux leur expliquer pourquoi le filet est plus dur, pourquoi la viande est succulente. Et normalement, les consommateurs doivent venir visiter l'exploitation pour mieux comprendre.
Faire venir les clients sur ces terres est aussi un moyen pour Enrique de faire connaître la DSA. Il se bat pour que cet écosystème soit reconnu, non seulement auprès des autorités espagnoles, mais aussi et surtout auprès des institutions européennes.
L'Europe ne veut pas comprendre que sous les chênes verts, il y a des pâtures. C'est une grave erreur, car ces pâturages offrent des aliments, les glands des chênes. La DSA devrait donc être reconnue comme une surface de pâture.
En Espagne, la DSA couvre 3,5 millions d'hectares et abrite 16 millions d'arbres. Si durant des décennies, ces pâturages ont permis aux populations rurales de vivre, la DSA est utilisée aujourd'hui par les grands propriétaires terriens comme terrain de chasse, au détriment des éleveurs qui veulent maintenir une utilisation traditionnelle des terres.
Et c'était un reportage réalisé avec le soutien de la PAC de l'Union européenne.
Avoir son premier appart, c'est prendre son indépendance, mais c'est aussi faire des compromis. Ah, tu sais pas décoder le langage immobilier? Bah regarde.
Quand tu dis à ta mère...
Bien sûr j'ai envie de te voir, t'es ma mère quand même.
En fait, ça veut dire...
Bah j'ai pas mangé depuis 4 jours, mes vêtements puent la mort et j'ai besoin de ton wifi.
Quand un futur locataire dit...
Mon dossier est absolument complet, il y a tout.
En fait, ça veut dire...
Alors ça, c'est mes bulletins de paie, ça c'est mon avis d'imposition, ça c'est la lettre de recommandation d'un sage-femme qui m'a mis...
Bonjour Eve. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors, on vient d'entendre un extrait plutôt hilarant d'une des vidéos de Norman, ce fameux YouTuber. Cette fois-ci, il faut quand même le préciser, ça a été commandé par une banque. Reste que le premier appartement a fait fantasmer tous les étudiants qui rêvent d'autonomie et de liberté. Et depuis quelques années, Eve, c'est un signe de l'époque, de plus en plus d'étudiants restent vivre chez leurs parents, au moins jusqu'à l'obtention du premier salaire.
Il y a quelques décennies, l'université rimait encore avec prise d'indépendance et d'autonomie. Elle est aujourd'hui souvent associée au travail et à des trajets interminables, mais surtout au logement de papa-maman. C'est une étude de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France qui le souligne. De plus en plus d'étudiants vivent chez leurs parents, 60% exactement en région parisienne, parce que les loyers dans la capitale explosent et que les candidats sont toujours aussi nombreux à arriver à se loger à moindre frais est devenu quasiment impossible. Enfin, surtout donc pour les franciliens qui, contrairement aux étudiants issus des autres régions françaises, n'ont pas vraiment besoin d'un pied-à-terre parisien, à eux donc les trajets interminables, je le disais, et ajoutez à cela une journée de travail qui concerne aujourd'hui un étudiant sur 6 en France, vous obtiendrez une triple journée métro-université-boulot éreintante qui n'est pas tout à fait compatible avec une vie étudiante apaisée.
Est-ce que pour autant les Français sont en train de devenir les Tanguy de l'Europe ?
Alors non, pas encore. Mais eux qui caracolaient en tête des jeunes Européens les plus rapides à quitter le foyer, 24 ans en moyenne, derrière les Anglais et les Hollandais, perdent un peu de terrain. Même si les jeunes Européens du Sud continuent de battre tous les records, les Tanguy italiens, espagnols et portugais quittent le nid autour de 29 ans.
Bon, il faut dire que question coût de l'immobilier, les petits Français sont particulièrement mal logés et mal lotis.
Oui, vu qu'ils subissent les prix parmi les plus élevés du marché européen. On savait déjà que Paris était avec Londres parmi les villes les plus chères d'Europe et peut-être du monde. Ce que l'on sait moins, c'est que Bordeaux est aussi plus cher que Rome, par exemple, Strasbourg plus onéreux qu'Édimbourg, Lille moins abordable que Madrid. Pourtant, selon une étude publiée ces jours-ci par le Crédit Foncier, les Français ne font pas partie des Européens qui dépensent le plus pour se loger. Les Hollandais font largement la course en tête avec près de 29% de leur budget mensuel réservé à l'habitat. Les Allemands sont juste derrière avec 27%. Suivent ensuite les Britanniques et enfin les Français avec seulement, entre guillemets, 18% du budget.
Ève, comment peut-on expliquer ces différences importantes ?
Alors, selon cette étude, les différences s'expliquent par la part de propriétaires ayant fini de rembourser leurs prêts immobiliers dans chaque pays étudié. Ceux qui paient le plus sont évidemment les locataires, qui sont complètement tributaires des prix du marché. Les Européens dépensent également plus quand ils sont endettés dans le cadre d'un prêt. En France, 15% des propriétaires ont fini de rembourser leur logement, c'est plutôt peu, mais 15% bénéficient d'une aide de l'État, d'un logement social, ce qui explique qu'ils dépensent moins, par exemple, que leurs voisins européens. Anecdote intéressante, figurez-vous que 6 Européens sur 10 en moyenne, mais 8 Hollandais sur 10 habitent une maison dont la taille est environ de 119 mètres carrés en moyenne. La superficie d'un logement européen est d'ailleurs de 102 mètres carrés pour 2,3 personnes. La France se situe d'ailleurs exactement dans cette moyenne. Ce sont les Italiens qui ont les plus petits logements avec 99 mètres carrés.
Alors les étudiants européens, eux aussi, cherchent de plus en plus de grands appartements à partager. Et dans certaines villes européennes, la colocation fait sa révolution.
C'est le cas de Bruxelles, capitale belge, mais surtout centre de l'Europe. De plus en plus de jeunes Européens, on en a déjà parlé dans Accent, viennent y chercher du travail ou des stages auprès des institutions européennes et internationales notamment. Déracinés, ils intègrent de véritables auberges espagnoles où toutes les nationalités se superposent. Les jeunes de 18 à 35 ans représenteraient même 30% des expats dans la capitale de l'Europe. Ils ne s'installent donc pas seulement pendant leurs études, ils restent souvent après leurs études en colocation. Aujourd'hui, un logement sur 10 dans la capitale belge est habité par des colocataires, à tel point que l'on parle de génération colocation.
Et il faut le dire, ce sera notre conclusion, des colocations où l'étudiant français a encore une fois mauvaise réputation, Ève.
Oui, selon une étude réalisée cette année par UniPlaces, l'étudiant français ne fait pas rêver les autres Européens. En tout cas, il ne fait rêver que 5% de ses potentiels colocataires. Il fait beaucoup moins bien, par exemple, que l'espagnol ou l'italien, mais un tout petit peu mieux que l'allemand ou le portugais. Alors, ce qu'on lui reproche, l'étude ne le dit pas, mais il semblerait que le mauvais locataire ne fasse pas le ménage, vole la nourriture, fasse du bruit, n'ait aucune volonté de sociabiliser, oublie de fermer la porte et invite trop de monde. Alors, est-ce que cela vous paraît particulièrement un comportement français, Catherine ? C'est à méditer.
Effectivement, de quoi se remettre en question, Ève. En tout cas, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Depuis une semaine, des milliers d'écoliers d'une cinquantaine de pays planchent sur plusieurs défis logiques et informatiques. C'est ce qu'on appelle le concours Castor, initié par la Lituanie en 2004 et que les petits Français ont rejoint en 2011. L'an dernier, près d'1,5 million d'élèves y ont participé. Tout est parti en fait de l'idée d'une informaticienne lituanienne qui voulait démocratiser sa discipline et faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique. Et c'est un succès. À Vilnius, le reportage de Marielle Vitureau.
18 exercices à réaliser en 40 minutes. Les lycéens ont dû déchiffrer des messages secrets et en rédiger. Ils ont dû encore organiser le passage d'une famille de castors dans un tunnel en un temps imparti, en prenant en compte la vitesse de chacun ou chercher le chemin le plus rapide pour se rendre d'un point A à un point B. Agota, 16 ans, a réussi à en résoudre un peu plus de la moitié.
J'attends vraiment ce concours. Les exercices sont toujours intéressants. Il faut aimer la logique. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on fait ainsi de l'informatique un peu différemment. De toute façon, aujourd'hui, impossible de faire l'impasse sur l'informatique. Moi, je veux étudier le design et j'aurai besoin de plusieurs programmes pour créer des objets.
Quand Valentina Daguené a créé le défi Castor en 2004, elle a combiné ainsi ses deux passions, l'informatique et la pédagogie. Elle voulait intéresser le plus possible de jeunes à l'informatique, mais aussi repérer les futurs talents.
Les technologies de l'information sont tellement présentes dans nos vies que le besoin en spécialistes est criant. Nous avons besoin de compétences pour créer des sites internet ou de nouveaux objets connectés. Il faut donc des gens qui sachent comment développer toutes ces technologies et ça, c'est le travail de l'informaticien. En tant que professeur, notre but n'est pas uniquement d'apprendre aux enfants à se servir de ces technologies, mais il nous faut aussi repérer ceux qui ont la fibre technologique, puisqu'une grande partie de la société devra à l'avenir créer et fabriquer ce genre d'objets.
Dans la classe de Jonas Ruiz, l'ambiance est bonne enfant lors de ce défi castor. Les lycéens discutent entre eux pour savoir s'ils ont bien compris la question. Aucun n'a refusé de participer à cette leçon d'informatique un peu particulière. Une matière de toute façon obligatoire du collège jusqu'à la seconde. Et ce qui les attire, selon leur professeur,
des situations concrètes qui ne ressemblent en rien à des mathématiques abstraites. Le nombre de questions liées à la circulation est en hausse. Comment se rendre le plus vite à un endroit? Comment éviter les bouchons? Les exercices sont dictés par les embouteillages et la vie quotidienne.
Le concours est vite devenu international et plus d'un million d'enfants dans 36 pays différents sur tous les continents y prend part chaque année. Choisir les exercices proposés aux élèves représente un véritable défi logistique. Chaque pays participant doit soumettre 10 questions. Réunis pendant une semaine, des scientifiques venus de tous ces pays les analysent, les peaufinent et les valident. Les organisateurs n'ont plus qu'à piocher dans une grande banque de données pour mettre sur place leur propre défi castor. Valentina Daguené adore concevoir de nouvelles questions, mais la tâche est ardue. Chaque question doit être une porte d'entrée vers le monde informatique.
Les questions permettent d'aborder de manière ludique les notions utilisées dans le domaine de l'informatique, comme les cycles, la répétition. L'informatique a son propre langage et il faut apprendre l'alphabet de ce langage, les commandes données, la suite logique des actions, les répétitions. Impossible d'apprendre à coder de manière théorique à un enfant. En apprenant ce qu'est une commande, comment elle est mise en œuvre, on peut alors commencer à écrire du code.
Plus de la moitié des écoles de Vilnius ont participé à ce concours. Le succès est le même à l'étranger. Jonas Ruiz a son explication.
Le concours parle la langue de l'informatique, une langue mondialement connue. Il a donc permis de rassembler les scientifiques, les profs et d'avoir quelque chose en commun.
L'un des défis de ce concours reste aujourd'hui de motiver les jeunes filles à participer. Elles ne représentent qu'un tiers des participants dans les classes de lycée. Un défi dont est consciente Valentina Daguené, mère de 5 enfants. Elle a su concilier famille et carrière scientifique. L'enjeu est de taille. Les filles doivent aussi participer à la création des nouveaux outils informatiques qu'elles utiliseront autant que les hommes.
Et on termine par un voyage en Islande, dans un paysage féerique à 45 km seulement de Reykjavik, au cœur du parc national de Thingvellir. C'est là, sur une des routes désormais très touristiques pour ces somptueux paysages, que se trouverait le plus vieux parlement du monde. Margot Emmerich y est rendue.
C'est l'une des étapes incontournables quand on se rend en Islande, la première escale du voyage tant apprécié par les touristes que constitue le Cercle d'Or. Mais ici, à Thingvellir, on vient chercher bien plus que les célèbres paysages lunaires qui font l'attrait du pays, puisque c'est à cet endroit très précis dans l'Islande du Sud-Ouest qu'en 930 se serait dressé le plus vieux parlement du monde. Rassemblé il y a plus d'un millénaire face à l'immense muraille de roches cendrées, 36 chefs au total tenaient là leurs assemblées, tandis qu'un homme, choisi par le groupe, récitait à haute voix la loi islandaise. Celle-ci était ensuite révisée oralement au fur et à mesure. Alors, si le parlement fut installé là, c'est loin d'être un hasard. Sur le rift, au pied du rocher de la loi, il se situe à l'endroit où les plaques terrestres eurasiennes et nord-américaines s'éloignent chaque année de 2 cm. On dit d'ailleurs que c'est à Thingvellir que débute la faille qui traverse ensuite toute l'Islande. Par la suite, le lieu restera symbolique puisque les Islandais choisissent la même terre pour déclarer l'indépendance du pays vis-à-vis de la Norvège en 1944. Aujourd'hui pourtant, difficile d'imaginer autre chose que ces vastes marécages qui s'étendent jusqu'au grand lac de Thingvallavatn. Autour de la faille, le paysage a en effet englouti l'auguste assemblée au gré des fréquents tremblements de terre. Plus une trace, plus une seule ruine de l'ancestrale institution. À Thingvellir reste donc aux Islandais le mythe d'une nation unie et aux touristes la contemplation d'une nature qui a repris ses droits.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, vous retrouverez notamment le reportage de Julien Méchaussi en Allemagne, où des familles de réfugiés ont contribué à sauver l'école d'un village. Merci de nous avoir suivis à la réalisation, Jérémy Besset et Françoise Grelot. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants. Les infos.